Le yiddish aujourd'hui. Chansons, musique, littérature, théâtre, événements, actualités. Avec Astrid Ruf et Annette Fern. Bonjour Astrid.
Bonjour Annette.
Alors là, nous sommes dans la période de commémoration de la Shoah. Je crois que c'est l'anniversaire de la libération de Auschwitz, fin janvier, le 27 janvier. Oui. Voilà, nous avons choisi de parler de cet événement à travers un écrivain, à travers le grand écrivain yiddish Avrom Sutzkever, qui est décédé il y a exactement 10 ans, le 20 janvier 2010, à l'âge de
17 ans,
hein, c'est ça, voilà. Donc oui, c'est ça, il est né en 13. Hein. Avrom Sutzkever, qui est l'auteur d'une œuvre absolument immense, et qui a traversé la guerre, en étant lui-même dans un ghetto. Hein, il était à Vilna avec sa femme. Il a d'abord vécu dans le ghetto, et ensuite il est sorti du ghetto. Il a été chez ce qu'on appelle les partisans en yiddish, qu'on appelle les résistants en France, donc dans des forêts autour de Vilna, où il a vécu 6 mois dans des conditions évidemment épouvantables, jusqu'à ce qu'il a été vraiment sauvé miraculeusement, peut-on dire, par un hélicoptère qui a été envoyé de Moscou grâce à Ilya Ehrenbourg. C'est une histoire incroyable, c'est-à-dire que les poèmes d'Avrom Sutzkever étaient connus d'Ilya Ehrenbourg, qui se dit qu'on ne pouvait pas laisser mourir un auteur de cette envergure. Et donc, il a demandé à Staline d'envoyer un hélicoptère dans les forêts autour de Vilna. Ils ont réussi à trouver Sutzkever et son épouse, et ils les ont emmenés à Moscou. Ensuite, Sutzkever a témoigné au procès de Nuremberg, en russe, puisqu'on ne l'a pas laissé parler yiddish. Ensuite, il est passé par la Pologne, il est passé par la France, et puis il s'est finalement installé en Israël. Donc, c'est un auteur vraiment qui a couvert le siècle, qui a commencé à écrire très jeune, qui écrivait une poésie très lyrique, et qui ensuite a été pris, évidemment, dans cette tourmente et dans ces événements épouvantables du ghetto. Il n'a jamais cessé d'écrire. Hein, et pour lui, le fait d'écrire, c'était vraiment la manière de survivre. Et de manière, qui peut paraître un petit peu dérisoire, mais qui lui a permis de vivre, c'est-à-dire que son souci pendant toute sa vie, d'ailleurs, pendant toute sa vie, ça a été d'écrire et de maintenir ses écrits vivants et de les publier. Après la guerre, il est allé en Israël où il a fondé la revue The Golden Gate, la chaîne d'or, qui a paru longtemps, mais qui s'est arrêtée dans les dernières années de la vie de Sutzkever. Il a écrit vraiment de tout, de la poésie lyrique, de la poésie sur Israël, évidemment de la poésie aussi sur la Shoah. Et il a écrit également en prose. Donc son ouvrage, le premier en prose, c'est celui dont je vais lire des extraits, s'appelle Aquarium Vert, Greener Aquarium. Et je vais en parler et le lire dans la traduction remarquable qu'a fait Batia Baum, qui a été publiée par la bibliothèque MEDEM en édition bilingue, une très belle édition, malheureusement pas très accessible parce que ce n'est pas très bien diffusé, donc ça s'est paru en 2013. Voilà, mais avant de lire, on va peut-être écouter déjà une première musique.
Alors, il y a plusieurs des poèmes de Sutzkever qui ont été mis en musique, dont celui-ci, Unter deine weiße Stern, que j'ai chanté moi-même dans le spectacle qui s'appelait Confidence sur le Yiddish. Très belle chanson, elle n'est pas beaucoup enregistrée, j'en ai trouvé deux enregistrements, Chava Halberstein, bien sûr, et puis Ora Sitzner, une chanteuse israélienne. C'est un disque déjà assez ancien, il date de 1983. Mais voilà, pour changer, je me suis dit que j'allais le faire entendre plutôt par Ora Sitzner que par Chava Halberstein, qu'on entend bien souvent. Donc, Unter deine weiße Sterne.
Unter deine weiße Stirn streckt zu dir mein weiße Hand. Meine Wärter seinen Tränen will ruhen in dein Hand. Seh es dunkelt, seh er finkel in mein Keller dicken Blick. Und ich hab gar nicht kein Winkel, sei zu schenken dir zurück. Und ich hab gar nicht kein Winkel, sei zu schenken dir zurück. Und ich will doch Gott mein Treuer dir vertrauen, mein Vermeg. In mein Herzen brennt ein Feuer und in Feuer meine Tag. Über Kellern und Lächer weint die mörderische Ruhe. Läufig hecher über Dächer und ich such, wo bist du, wo? Läuf ich hecher über Dächer und ich such, wo bist du, wo? Nehmen jagen mich Meschune, Trepp und Häufen mit Gewoll. Häng ich a geplatzte Strune und ich sing zu dir a Song. Unter deine weiße Stern streckt zu dir mein weiße Hand. Meine Wärter seinen Tränen will ruhen in dein Hand. Meine Wärter, seinen Tränen will ruhen in dein Hand.
Oui, donc c'est un poème qui a été composé pendant le séjour de Sutzkever dans le ghetto. Unter deine weiße Stern streckt zu mir deine weiße Hand. Donc, sous tes étoiles blanches, tend vers moi ta main blanche. Donc, c'est un poème adressé à Dieu. Et aussi avec l'idée des étoiles. L'étoile, c'est aussi un thème qui revient très souvent chez Sutkever, un petit peu l'étoile qui le protège. Et peut-être aussi parce que dans ce monde du ghetto qui était si épouvantable et qui était tellement différent du monde habituel, eh bien, les étoiles étaient peut-être à peu près la seule chose qui restait semblable. Alors, il faut aussi dire que pendant son séjour dans le ghetto, Sutzkever a fait partie de ce qu'on a appelé la brigade de papier. C'est-à-dire que les Allemands avaient l'intention de créer un musée d'un peuple disparu, donc le musée des Juifs. Une fois que tous les Juifs auraient disparu, ils voulaient quand même garder un certain nombre d'objets qui témoignaient de leur présence, et en particulier des livres. Et donc, Sutzkever, avec d'autres personnes, ont été chargés de trier les immenses bibliothèques de Vilna, hein, qui était une ville qui avait une grande, grande culture. Et donc, ils ont... et de trier les livres les plus importants et de les remettre aux Allemands. Exactement. Et en fait, ils ont réussi à en cacher un certain nombre qui ont été retrouvés après-guerre. Et c'est pour ça qu'on les a appelés les brigades de papier, qui ont fait l'objet d'un très intéressant documentaire qu'on peut peut-être voir encore ou qui va certainement repasser à la télévision. Voilà, donc là, je vais vous lire... Oui, alors je voulais encore dire que ce Green Aquarium a d'abord... C'est une série de textes en prose, prose poétique, peut-on dire, qui est d'abord paru dans The Golden Kate, donc entre 1953 et 54. Et en 57, ils ont été réunis et augmentés d'un nouveau texte. Alors, je sors tous ces éléments de la remarquable postface de Heather Valencia, qui est une grande spécialiste de Soetskever, une enseignante, et donc qui a écrit elle-même un livre sur Soetskever, mais qui est en anglais. Et donc, ça a été rassemblé dans un livre, en fait, en trois parties, avec en première partie « Ode zu der Taube », qui est un poème qui est en fait un dialogue avec sa muse, la colombe, symbole de sa première inspiration poétique en Sibérie. Donc là, nous sommes avant la guerre. Ensuite, il y a « Elefanten bei Nacht »,« Éléphant dans la nuit », qui est inspiré des voyages de Soetskever dans le sud de l'Afrique en 50. Et le troisième parti, c'est Aquarium vert. Donc on voit vraiment que Soetskever avait la volonté de montrer un petit peu les différentes faces de sa création. Donc Greener Aquarium, comme je l'ai dit, c'est une série de textes en prose, avec, racontant ses expériences pendant la guerre, mais d'une manière très... poétique, qui n'est pas directe, avec des images des fois très effrayantes, des fois très belles, et un langage qui n'est pas le langage de tous les jours. Hein. Ce n'est pas un témoignage, comme on pourrait l'imaginer. Alors, il a lui-même tenu un journal pendant le ghetto, donc il s'appelle « Journal du ghetto de Vilna ». Mais là, il s'agit plutôt de transposition de ses expériences dans une langue poétique. Voilà.
C'est une langue, une conception assez compliquée, quoi. Hein. C'était... du temps à rentrer dedans et à le comprendre.
Oui, parce que Soetskever est avant tout un poète, un artiste, et pour lui, la réalité n'a de sens que si elle est transfigurée par la poésie. C'est d'ailleurs pour cela qu'il est extrêmement difficile à traduire. Sa poésie a été très peu traduite. Il y a Rachel Hertel qui en a traduit un petit peu dans un livre qu'on ne peut plus trouver, qui est épuisé depuis très longtemps. Et qui est déjà très ancien. Et bon, je crois que personne n'ose traduire la poésie de Soetskever. Bon, alors, il a écrit ce texte, Greener Aquarium. Il a écrit aussi dans son grand âge des petits récits qui s'appellent Derzählungen, qui sont des petits récits, qui sont un peu plus simples, bien qu'il joue tout le temps aussi sur les mots et que du coup, là aussi, pour la traduction, ce n'est pas
simple. Il n'a écrit qu'en yiddish ou est-ce qu'il a écrit en hébreu à la fin
de sa vie ? Non, il a écrit qu'en yiddish. Vraiment, c'était un défenseur du yiddish. Et puis, je crois aussi que, comme Isaac Bashevis-Singer, c'est la poésie, l'inspiration ne pouvait se faire qu'en yiddish. Vraiment, c'était leur langue et c'était aussi... la volonté de faire perdurer cette langue. Mais au-delà de ça, je pense que c'est vraiment l'impossibilité d'écrire dans une autre langue. Hein, que vraiment, le yiddish était complètement...
Mameloshen.
Oui, Mameloshen est vraiment incorporé à leur être. Quoi, hein. Alors, donc, ce texte s'appelle « Sous le voile d'or ». Ben, je vais vous le lire en français, peut-être après un tout petit extrait en yiddish. Le soleil, en flaque verte, vaste marée flottant, semble vouloir ne jamais disparaître. Les pas gelés en pleine course, le printemps étincelle. Son souffle au fond des bois, un miroir embué. À l'orée du bois, deux marcheurs. Joachim, le forgeron de Zosle, en tête. La pelisse ceinte d'une corde. Sur son dos, les points de piqûre d'une étoile jaune qui, ici, dans le bois, s'est envolée. Et sur l'épaule, il porte une hache. La hache, luisant squelette de loup, sa tête plate tournée vers l'arrière. Un loup si affamé qu'il s'est lui-même dépecé. Le second marcheur, c'est moi. Une scie, cuirasse dentée, me protège les côtes. C'est Joachim qui m'a appris à revêtir la scie comme une armure. C'est plus commode et on se rit des balles. Tels des chasseurs flairant le gibier, nous traquons tous deux notre proie. Une victime à brûler en sacrifice. Cette victime doit être un arbre, un de ceux qu'on appelle chancreux, dont l'écorce s'écaille comme les membres d'un lépreux, dont les racines d'acier se sont muées en veines de cendre et dont le corps nu est fendu bleu vif comme l'alcool en feu. Nous sommes à l'affût d'un arbre sec, que son bois flambe à la première allumette. Le bœuf égaré dans la forêt, dans le sang duquel Joachim a trempé le fer de sa hache, gèle depuis plusieurs jours déjà près de notre hutte, enterré faute de bois propre à préparer un savoureux repas. Le bœuf mort gît dans la neige, couché sur le flanc, son pelage cerise à demi écorché, du cou jusqu'au ventre, pas plus loin. On le dirait couché dans un lit blanc sous un édredon de soie rouge. « Attention, devant, un chancreux ! Regarde, frérot, un tel arbre, on le repère la nuit. Autour de lui, tu vois, un voile d'or. Nous approchons et Joachim a vu juste un gros chêne, vieux, noueux, pourri jusqu'au cœur, sans sève et sans vie. Il y en aura assez pour rôtir tout un troupeau de bœufs, sec comme la poix. » Et Joachim plante sa cognée dans l'arbre. J'examine de plus près notre victime. Et la scie vole à bas de ma poitrine en un battement de ses deux ailes d'acier. « Joachim, cet arbre est voilé de fumée, les yeux me piquent !»« La brume, il prend ça pour de la fumée. Au printemps, les brumes errent dans les bois comme des hommes et leurs jambes là se reposent sur les arbres. Allez, la scie, en avant la musique !» La scie plante ses dents dans le chêne et la neige se crible de sciures pourpres. Joachim s'essuie les yeux de sa manche et la scie reste prise dans l'arbre comme un navire dans les glaces. Nous reculons à quelques pas du chêne et lavons avec de la neige fraîche l'amertume de nos yeux. « Allez, on scie !» dit le forgeron de Zosle. Nous scions, scions, et là, à ne pas croire, de l'arbre mort sort une vivante mélodie. Sous l'écorce lacérée apparaît un juif drapé dans son châle de prière. Il sourit de ce même vert bilieux que le soleil. Nous vivons dans cet arbre depuis bientôt 20 mois. Oui, frère juif, ma femme et moi. En bas, dans un trou de renard, elle rôtit les pommes de terre et moi, en haut, je récite les psaumes. Merci, mon Dieu, grâce à toi, je ne me suis pas endormie. Un miracle, un vrai miracle. Si je n'avais pas récité les psaumes, je me serais endormie et votre scie m'aurait taillée en pièces. Voilà une histoire en fait assez étrange donc de ces deux personnages, on ne sait pas très bien qui c'est, le narrateur et puis un ami qui sont bien équipés, hein, ils ont des haches, ils ont des scies et ils vont scier un arbre, donc on pense que ça se passe dans les bois autour de Vilna pendant la guerre, hein. Et soudain dans cet arbre s'est caché un juif qui récite des psaumes. Donc là, on est vraiment presque dans une histoire chassidique, hein, de cette apparition miraculeuse de ce juif qui se cache là depuis 20 mois, donc depuis fort longtemps, et qui survit grâce à la récitation des psaumes. Hein. Bon, c'est une des histoires les moins effrayantes de ce recueil, dont certaines sont vraiment très dures. Je vais peut-être vous lire juste un petit passage. Je vais vous lire la fin là de ce que raconte le juif qui était drapé dans son châle de prière. Hier, in od dem Baum leben mir schon at 20 Kradoshim. Je, meine Jiden, meine Weib und ich. Unten in Fuchsenheil backt sie Bulbes und ihr Euben sagt Tehillim. A dank dir, Gottenju, was ich bin nicht eingeschlafen, an Ness, wollt ihr nicht gesagt, Tehillim, wollt ihr doch eingeschlagen und ich sag, eier, wollt mir demol zerschnitten. Voilà, donc c'est dans une langue très, très simple et très. Qui sonne comme ça, un peu chassidique.
La vertu des tilim, hein, on n'a pas
oui,
fini
voilà,
de le dire.
Oui, voilà, la vertu des tilim, voilà, exactement, c'est ça. C'est pour ça que je dis, c'est vraiment. Ça sonne comme ça, très traditionnel, ouais.
Alors, une autre chanson de Sutskever, sur un texte de Sutskever, il n'a jamais écrit les musiques, Ah, c'est terrible aussi. C'est sur quand on arrachait tous les vêtements, y compris les chaussures aux Juifs avant de les gazer. Et il voit passer à Wagenschir un wagon de chaussures et petit détail vraiment qui arrache des larmes, il reconnaît sur ce wagon, parmi toutes ses chaussures, celle de sa mère. Donc cette chanson qui s'appelle « À Wagenschir », chantée par la chanteuse yiddish anglaise qui s'appelle Hilda Bronstein, qui est accompagnée ici. Alors c'est une femme, je pense, d'un certain âge, ça s'entend à sa voix, mais c'est elle chante un petit peu à l'ancienne, mais c'est quand même très bien. Elle est accompagnée par deux jeunes, par contre, prodiges du revival, de la chanson, de la renaissance de la chanson yiddish. Un couple, elle s'appelle Paulina Shepherd et lui, Merlin Shepherd. Elle accompagne au piano, elle chante aussi, elle dirige des chorales, c'est une femme extraordinaire. Et Merlin, son mari, est clarinettiste. Donc, je trouve que le style de l'accompagnement est très différent du style du chant. Et ça donne un mélange un petit peu étonnant. Voilà, « À Wagenschir ».
Die Räder jogen, jogen, was bringen sie mit sich? Sie bringen mir a Wogen mit Zapplen dicke Schich. Der Wogen wie a Huppe in offentigen Glanz, die Schich a fulle Kuppe wie Menschen in a Tanz. Ach, Hasene Ayontef, sie hat mich wer verblend, die Schich a soine nonte, aufs Neujuch ob der kennt. Es klappen die Obsassen, wohin, 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 von alte Wilner Gassen, mit treibt uns kein Berlin. Ich darf nicht fragen, wem es, nur es tut in Hals a Ries. Oi, sagt mir Schich, dem Emes, wo sehnen sei die Fies? Die Fies von jene Tufu, mit Knäppelech wie Toi. Und da, wo ist das Kufu, und dort, wo ist die Freu? In Kinderschich, in alle, was seh ich nicht, kein Kind, was tut nicht an die Kalle, die Schichele hat sind. Durch Kinderschich und Schrabes, der kennt mein Mames Schich. Sie pflegt sie bloß auf Schabes, er räuft sie auf sich. Uns klappen die Obsassen, wohin, 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 von alte Wilner Gassen, mehr treibt uns kein Berlin.
Oui, encore une chanson composée dans le ghetto, donc quand il voit passer les chaussures de sa mère sur une voiture qui va partir ensuite en Allemagne, hein, parce qu'on prenait tous ces objets qu'on arrachait aux Juifs et on les envoyait en Allemagne. Et donc à Vilnius, il y a eu de grands massacres dans un lieu qui s'appelle Ponar, où on emmenait les Juifs dans la forêt et on les tuait, quoi, voilà. Donc, le ghetto de Vilna, bien sûr, était complètement vidé, oui, de ses membres, sauf ceux qui ont, de ses juifs, bien sûr, sauf ceux qui ont réussi à s'échapper dans les forêts, comme Sotskever, mais où, là aussi, ils ont été souvent victimes des Allemands. Voilà, bien, écoutez, on vous dit à la semaine prochaine. Shalom Aleichem.
Oui, et à la semaine prochaine. Et merci, Thomas. But you be did it if yam the bum 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 bum
bim bom bom.
Le Yiddish aujourd'hui. Chansons, musique, littérature, théâtre, événements, actualités.
Avec Astrid Ruf
et Annette Fern.
Aïe 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 aïe, c'est le bim bom bom.